France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Théâtre du Radeau il y a 17 ans et depuis j'ai chaque fois voulu recommencer l'expérience qui était de voir un spectacle de François Tanguy.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une voix sur nos épaules aujourd'hui dans votre book club et pas de méthode. François Tanguy est né en 1958, il est mort en 2022 au Mans, ville où s'était créée la compagnie du Radeau en 1977, rejointe par lui en 1982, ville aussi où s'était inventé le lieu de travail et de création, la fonderie. Le livre qui nous occupe aujourd'hui n'est pas né d'hier, ni exactement de cette mort de François Tanguy. C'est un dialogue sur ce théâtre, cette aventure, cette manière d'avancer entre d'une part Laurence Chabbe, comédienne et cofondatrice de la compagnie, et l'universitaire Olivier Neveu. Manière de se demander comment une œuvre de théâtre continue à exister par-delà sa fin, et manière d'y répondre en parlant. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre En dehors de nos frontières grâce à la rédac internationale de Radio France. Aujourd'hui, on file en Espagne faire un point sur leur paysage éditorial. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Laurence Chabbe.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans le Book Club et bonjour Olivier Neveu.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club. Vous discutez donc déjà, mais sur papier, avant de le faire en direct pour nous. Le livre s'appelle La voix sur l'épaule et il est sous-titré Dans les passés et ES de François Tanguy. Conversation donc publiée aux éditions Théâtral. Alors, on va essayer de donner une sorte d'aperçu à la fois de ce travail de et avec François Tanguy, mais aussi de l'aventure du théâtre du Radeau. Dans l'introduction, le texte introductif que vous rédigez, Olivier Neveu, vous dites « Laurence Chabbe ni ne témoigne, ni ne raconte ». Donc, il y a autre chose qui se passe dans ce livre-là. Ce serait quoi pour vous, Olivier Neveu ?
C'est difficile à décrire le geste qu'entreprend Laurence dans le livre. Peut-être je peux repartir légèrement en arrière pour expliquer d'où vient ce livre. Donc c'est une nouvelle collection qu'on a lancée avec deux camarades. À l'intérieur de cette collection, il y a une série de conversations. On a fait une première conversation avec Maggie Marin. Et puis assez vite, j'avais l'envie de cette conversation avec Laurence qui a été entamée il y a longtemps, du vivant de François Tanguy. Je me souviens, au moment du Covid, j'avais organisé pour les étudiants qui étaient très délaissés des rencontres hebdomadaires et Laurence avait participé par Zoom à cette rencontre en direct de la fonderie au Mans, le lieu qu'ils ont créé. Et c'était une rencontre magnifique parce que elle essayait, déjà elle avait sorti des cahiers de notes qu'elle avait prises pendant les répétitions et elle essayait de faire entendre, faire comprendre, mais y compris pour elle-même, ce en quoi consistait l'entreprise. Enfin, cette aventure poétique qui est celle du Radeau. Et donc, on s'était mis d'accord sur l'idée d'une conversation. Et puis Tanguy est mort. Et donc, effectivement, le statut du livre s'est transformé. Et je ne saurais pas trop décrire ce que fait Laurent, si ce n'est que ce qui m'a le plus passionné à la regarder faire, c'est les scrupules qui l'ont animée. Et je dirais que c'est des scrupules qu'elle avait déjà du vivant de Tanguy, essayer d'être la plus juste possible par rapport à une expérience qui met quand même beaucoup en défi le vocabulaire usuel du théâtre et de sa pratique. Évidemment, des scrupules par rapport à la responsabilité, c'est-à-dire qu'on va dire de cette œuvre, comment faire entendre pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue et puis pour l'avenir ce qu'elle est. Et puis, je crois aussi un scrupule à ne pas s'approprier pour elle seule, cette aventure, c'est-à-dire refuser la petite propriété privée du témoignage.
Et puis à partir de maintenant, peut-être on ne parlerait pas de Laurence Chabbe à la troisième personne, on va essayer de faire autrement, mais c'était extrêmement clair pour aller sur un terrain où en effet vous ne cessez l'un et l'autre d'avoir recours à des mots, puis de défaire ces mots, puis de questionner ces mots, puis d'avancer, puis en gros, que rien ne soit trop figé, rien ne soit trop solide. Vous le racontez dès le début de cette conversation, vous avez pris des notes pendant ce travail, Laurence Chabbe, avec quelle intuition ?
Aucune. Je note beaucoup ce que dit François au moment où il le dit. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est peut-être juste une manière de vaincre la peur d'oublier, tout
simplement. Dès le départ, vous voulez dire ?
Oui, parce que la parole de François est parfois très complexe. Elle part en ramification. Elle s'éloigne de ce qu'on pourrait appeler le sujet, si tant est qu'il y en ait un. Et donc, quand quelque chose éclate dans mes oreilles, je ressens vraiment le besoin de le noter. C'est quelque chose qui est devenu naturel au fil des années. Il n'y a pas d'intention précise au moment où je le fais. C'est vraiment une manière d'être au présent, au présent de sa parole et au présent aussi du regard de ce qui est en face et comment l'espace travaille et tous les autres éléments travaillent en même temps que j'écoute la voix de François.
Mais le temps a passé, les années de travail se sont accumulées. Est-ce qu'à un moment donné, ces prises de notes avaient pour vous valeur de mémoire? Est-ce que vous vous disiez, ah bah ce qu'on fait là, au moins, il y aura cette trace-là, sous cette forme-là? Ou non, c'était vraiment le présent pour le présent?
C'est vraiment le présent. Encore une fois, pas d'intention et encore moins dans la durée. J'y suis revenue de manière très 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 partielle lors d'entretiens précédents, celui avec Olivier, mais c'est tout.
Et est-ce que vous y trouviez quelque chose de tangible dans ces notes-là? Est-ce que ça marchait de relire les notes prises pendant le travail avec François Tanguy?
Oui, ça pouvait, j'emportais le cahier en tournée et oui, parfois, j'allais vers un fragment, une phrase, quelques lignes, pour soutenir quelque chose ou m'éloigner moi-même d'une question trop envahissante, par exemple.
Je dois vous dire que cette émission, elle doit sa tenue à deux choses. Le fait est que Nicolas Bouchaud a déballé sa bibliothèque pour le Book Club et il était en train de vous lire. Et donc voilà, il a mentionné ce livre et puis moi je l'avais reçu. Alors d'un seul coup, ça a été comme une sorte de réinvitation à l'ouvrir. Et puis aussi, j'ai eu envie qu'on fasse cette émission parce que tout ce que vous racontez tous les deux dans ce livre-là me semble être les contours tout à fait singuliers, mais d'aventures qui sont très fragilisées en ce moment. C'est-à-dire que c'est comme si vous parliez précisément de tout ce qui est en ce moment mis en danger, peu soutenu, fragilisé. Donc je me suis dit, ben, racontons ça en fait, faisons-le encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, Olivier Neveu, puisque vous aviez envie de faire cet entretien avec Laurence Chable avant même la mort de François Tanguy? Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous interpelle dans le théâtre du Radeau?
D'abord, vous avez raison de dire que ce sont des aventures qui sont aujourd'hui même littéralement attaquées.
Et parfois rendu impossible.
Et rendu impossible, et avec des attaques d'une brutalité sans nom, aujourd'hui, là, dans l'Hérault, dans les Pays de la Loire. Et c'est des agressions, pour le coup, politiques. Donc vous avez raison de mentionner ça, parce que je ne sais pas si elles vont être possibles à l'avenir, ces aventures telles qu'elles se déploient. Sur le radeau, alors je peux... Et c'est pas moi seulement qui le pense, je crois que l'aventure du radeau est une des aventures les plus importantes dans l'histoire du théâtre de ces 50 dernières années. C'est une aventure très unique. On le voit d'ailleurs dans le nombre d'artistes aujourd'hui qui sont inspirés par ce qui a pu se faire. Mais ce que je trouve le plus important, et ça a été un des enjeux aussi de la conversation, parce que c'est une conversation, c'était de ne pas en faire un modèle. C'est-à-dire de pas rendre la chose intimidante, de pas appeler à son duplicata. Ce serait tragique pour le coup de vouloir faire un autre Tanguy, un autre Radeau.
Puis vous passez votre temps tous les deux à dire que c'est pas possible. Que de toute façon, produire du même à partir de ça, ce serait délétère, ça marcherait pas. Ce serait vous à l'échec.
Oui, ce serait impossible, ce serait impossible. Mais c'était l'un des enjeux aussi, c'est-à-dire que la discussion ne vienne pas trop cerner les choses, même s'il fallait, et c'était le travail de Laurence, tenter d'être le plus précis possible, ou la plus précise possible sur cette aventure poétique qui quand même nous oblige, alors il est peut-être un peu trop tôt, même si certains et certaines ont déjà commencé à le faire, à objectiver en quoi cette œuvre est importante, mais elle est venue reconfigurer ce qu'on entendait par le théâtre. Moi, la première fois que je vois une œuvre du Radeau, c'est la bataille du Tagliamento, et je n'ai jamais vu ça, et je crois qu'on est quelques milliers à pouvoir dire, nous n'avions jamais vu ça.
Et alors pourquoi? racontons à des personnes qui n'ont jamais vu un spectacle du Théâtre du Roi. Pourquoi est-ce que, d'une part, vous pouvez affirmer avec d'autres que c'est l'une des œuvres théâtrales les plus importantes de ces 50 dernières années? Et pourquoi, la première fois que vous voyez ça, Olivier Neveu, vous vous dites « Ok, là, il se passe vraiment quelque chose ».
Alors, je précise, si je dis que c'est l'une des œuvres, c'est pas pour faire un palmarès. Hein.
Mais
c'est une œuvre qui... c'est très, très difficile à décrire. Et c'est peut-être déjà un premier indice que ce soit très difficile à décrire et qu'on soit mis en impasse de la description objective d'une œuvre. Peut-être je peux dire, moi, comment j'y rentre. La première fois que je vois ça, je suis très, très... fasciné. D'abord, je ne comprends rien par toutes ces épaisseurs, par toutes ces couches, par cette distance, c'est un plateau immense, par quelque chose qui glisse, des corps, des châssis, des paroles que j'entends pas toujours dans des langues très différentes. Bon, et ce que je perçois à l'époque, c'est un immense lyrisme. Et puis la chose, elle est un peu progressée, c'est-à-dire j'ai vu plusieurs spectacles, j'étais attentif peut-être à la récurrence des motifs, et je dirais, parmi plein d'autres choses, que c'est une grande œuvre du mouvement permanent. Et ça paraît être une contradiction, mais c'est tout le temps en mouvement. C'est un art de la métamorphose, mais ce sont des métamorphoses parfois complètement minimales. C'est comment une voix produit un son qui est un sens, qui est une musique, qui est un chant, mais qui est aussi la bouche qui le prononce. Et quand on est spectateur, on est constamment, ou spectatrice, saisi dans cette oscillation-là. On a choisi en quatrième de couverture une phrase que Laurence prononce dans le livre, qui est de dire que le théâtre du radeau pose une question, il nous invite à nous demander qu'est-ce qu'on fabrique quand on regarde. Et je crois que c'est précisément de cela dont il s'agit, c'est-à-dire que face au radeau, je suis pas contraint parce que la chose est beaucoup plus hospitalière.
Actif, en tout cas.
Je suis actif et je dois bien me demander qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je suis en train de fabriquer en regardant, et peut-être aussi prendre la mesure de toutes ces fois où je crois regarder, je ne regarde pas, et peut-être du caractère amputé ou mutilé de nos vies sensibles, de nos sensations dans un moment historique comme le nôtre.
Laurence Chable, on a dit à des aventures comme celle-ci, des aventures qui sont en ce moment fragilisées, attaquées ou peut-être même rendues impossibles. Si on essayait de dire, c'est quoi alors? Des aventures comme quoi? Comment est-ce que vous qualifiez les... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aventure du Théâtre du Radeau?
Alors, je ne dirais pas tout, parce que c'est impossible. On pourrait, par exemple, dire que ce n'est pas quelque chose de frontal, que ce n'est pas quelque chose qui va, et on pourra en reparler peut-être après quand je réponds à Olivier que François n'est pas metteur en scène, ce n'est pas quelque chose qui appelle à l'exécution, à la réponse. Et je crois que quand je dis ça, ça concerne aussi justement ce que vient de décrire Olivier. Dans l'activité du regard, dans l'activité de la perception. Vous dites aventure. Aventure aussi parce que François ne travaillait pas sur un préalable. Et que quand les retrouvailles se font... que quelque chose commence, on ne sait pas ce qui commence, puisqu'il n'y a pas de préalable, ni de texte, et encore moins de pièces de théâtre, et pas de thématique. C'est-à-dire que ce qui est partagé, c'est l'ignorance. Et ça, c'est quand même quelque chose, je crois, d'assez fort...
Désir, parce que vous dites aussi qu'on met, en gros, quelques semaines, le collectif réuni, à essayer de comprendre ce qu'on fait là, à essayer de comprendre qu'est-ce qui agite François Tanguy, mais ça veut bien dire qu'il y a un désir d'être ensemble. Vous parlez même de retrouvailles, donc il y a un moment, il se passe quelque chose. C'est juste que dans un premier temps, personne ne sait ce qui se passe.
Personne ne sait, mais ce que l'on sait, c'est comment cette coprésence... ne s'inscrit pas dans l'attente d'une révélation, par exemple, mais dans un se faisant. C'est-à-dire que la parole de François n'est pas entendue comme venant de sphères extrêmement mystérieuses. Au contraire, c'est comment trouver cette simplicité d'une écoute qui ne va pas se placer dans la traduction immédiate ou l'envisagement immédiat de ce qui s'appelle le plateau et le corps au plateau, c'est-à-dire de ce que un corps va devoir produire. Ce n'est pas du tout dans cette écoute-là que...
Et alors, vous en parlez dans ce dialogue avec Olivier Neveu, donc avant qu'il y ait du plateau ou des corps au plateau, Laurence Chable, il y a quoi ? Vous vous réunissez, il y a de la coprésence, il y a de l'écoute, il y a de la parole. Vous faites quoi pendant des semaines ? Comment on cherche à comprendre ?
Il y a quand même un préalable qui est l'espace. Espace qui, de création en création, va très souvent reprendre les matériaux, éventuellement les transformer. Et François se met au travail avec les camarades de la construction sur cet espace qui est quand même très particulier, il faut le dire, et qui va aussi, alors je n'aime pas du tout le mot évoluer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se modifier au fur et à mesure des créations de la part de François. Et cet espace, il est là, il est comme en attente, comme en disponibilité. Donc le temps de la rencontre autour de la table, il n'a pas sa limite. Pourquoi ? Parce que on ne dit pas, on ne cartographie pas, on ne dit pas. Alors on va parler pendant 3 semaines ou voilà. Quelque chose peut tendre vers un mouvement, s'interrompre et reprendre la conversation, les lectures autour de la table. Ce mouvement-là, comme il est justement dans le présent, dans le se faisant, ne s'établit pas. Il n'y a pas de pré. La nécessité, comme il est nécessaire à François de travailler en même temps que les corps sont au travail au plateau, de travailler la lumière, de travailler encore un châssis pour que quelque chose se déplace plus facilement que nous allons porter, de travailler avec Eric, je parle d'Eric puisque c'est lui qui, depuis de longues années, Eric Goudard, qui travaille avec nous, travaillait le son. Tout est mis en mouvement ensemble. Donc les durées, elles sont constamment...
On se chevauche en fait, tout le temps.
Mises à l'épreuve de ça. Une interruption va prendre 2 minutes ou 3 heures, selon ce qui se passe.
Aujourd'hui, c'est ça qu'on appellerait le luxe de la recherche, Laurence Chable, et peut-être que je suis vraiment trop inquiétée ou formatée par ça, mais dans la conversation, vous intervenez sur ces questions-là, Olivier Neveu, c'est-à-dire ce que vous racontez là, ça nécessite que les gens y puissent vivre avec ça pendant ce temps de recherche, qu'ils aient la possibilité de cette temporalité, qu'ils aient le droit de s'arrêter, qu'ils aient le droit de digérer, qu'ils aient le droit de chercher. Or ça, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire « ça coûte trop cher, faites plus court, faites plus simple ». C'est aussi une question qui vous intéresse et c'est une question qui est très politique ou potentiellement politisable, Olivier Neveu.
Oui, il y a une espèce d'immense formatage aujourd'hui des productions qui vient de plein d'endroits différents avec une intériorisation aussi de ces modalités même de la création et qui ont des conséquences sur les œuvres que l'on peut voir. Il manque du temps, il manque des durées. Et on sait bien que ça va probablement s'accélérer, cette chose-là, et ces attaques-là qui sont portées à l'encontre de la création en tant que c'est une création. Le système absurde et débilisant et humiliant aujourd'hui qui est de devoir faire un dossier qui raconte quasiment, avant d'avoir mis le premier pas sur un plateau, à quoi ressemblera l'œuvre au final, dit bien que quelque chose-là ne va plus et ne se conçoit plus en contact, pour le coup, avec ce que ça veut dire essayer, répéter. Peut-être que l'une des choses qui caractérise le théâtre, c'est que ça se répète. Voilà. Et que ce moment moment-là qui tend à être contraint, et pourtant le moment décisif, puisque c'est là où...
Ça s'essaye, ça se pense, ça se sédimente.
Exactement, des accidents deviennent des choses très importantes, etc. etc. Et...
Vous parliez tout à l'heure de la manière dont vous aviez été saisie lors de la première fois que vous assistiez à un moment du théâtre du Radeau, par la profondeur, mais je crois qu'il y a une profondeur à la fois plastique de l'espace, mais on sent aussi une sorte d'épaisseur, et peut-être que c'est ça aussi que procure ou produit le temps.
Oui, oui, tout à fait. La durée, enfin, au final, c'est le temps qu'on a passé sur une chose, hein, qui se voit ou qui se perçoit. Et puis, il y a aussi une autre profondeur, c'est que, on est au book club, Tanguy était un immense lecteur et qu'il avait une conscience historique. Peut-être l'une des choses aussi qui m'a frappé en voyant la première fois une œuvre et puis en la retrouvant, c'est qu'il inventait un temps qui avait à voir avec le présent. Mais le présent, c'est pas l'immédiat, le présent, c'est pas l'actualité. Le présent, c'est un temps hospitalier à des choses immémoriales, archaïques, à du devenir, et en même temps avec la rencontre là. Et toutes ces profondeurs-là, elles se retrouvaient au moment de la présentation du travail, je crois.
Ça m'intéresse que vous mentionniez évidemment François Tanguy en tant que lecteur, parce que vous l'avez dit, Laurence Chable, la présence du texte n'est pas un préalable au sens où c'est pas le truc qui vous rassemble et qui vous met au travail. Vous ne vous dites pas « on va monter l'idiot de Dostoïevski » où on va monter Tchekhov, où on va faire un travail autour d'eux. J'ai l'impression que dans la manière dont vous racontez le travail de et avec François Tanguy, les textes s'invitent, Kafka s'invite. Comment ça se passe ?
Alors, comme dit Olivier, François est un lecteur infatigable. Ses lectures... Elle soulève quelque chose en lui que je ne saurais bien sûr pas décrire. Mais les lectures, beaucoup plus qu'une matière à travail, deviennent, j'allais dire, des amitiés. François, quand il le nommait, certains auteurs les appelaient par leur prénom. Il disait Fédor, il disait Franz, il disait Robert pour Walser. C'est le signe de quelque chose, comme s'il prenait dans sa main tel ou tel fragment de Kafka, et d'ailleurs, pour certains, qui reviendront toujours, toujours, toujours au fil des créations et des années.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Le brin d'herbe qui pousse par le milieu, l'hypothèse et les deux fenêtres. Beaucoup d'autres... comment dire ? François, mais je crois que c'est pareil pour les fragments musicaux ou pour le son... comment il prend dans ses bras, comment cette amitié va justement non pas conduire à ce qui s'appellerait une restitution, une interprétation, une manière de voir, etc. Mais fait corps avec quelque chose.
Et, mais avec vous ?
Et oui, et de plusieurs manières. Mm. C'est-à-dire que, comment décrire ça ? Quand on lit à voix haute, quand les questions, les émotions, les traversées, ce qui ne peut pas se traduire justement et s'interpréter, va prendre voix sur le plateau. Dans cet espace, dans la lumière, en costume, il y a quelque chose qui dépasse, qui désapproprie. Donc, c'était quoi votre question ?
Non, vous êtes en train d'y répondre. C'est comment est-ce que vous n'êtes pas là, tous ensemble, en train d'interpréter Kafka ou commenter je sais pas, Deleuze ou relire Dostoïevski, mais de faire corps avec tout ça. Ça rejoint ce que vous dites, Laurent Chappe, de faire tout en même temps, enfin que c'est tout traverse en même temps, le son, la lumière, les corps au plateau, vos conversations, ces lectures, enfin voilà. Olivier Neveu.
En même temps, il est aussi révélateur d'autre chose. C'est-à-dire que sur un plateau de Tanguy ne hiérarchise pas. Mm. C'est-à-dire que la parole est d'abord le texte écrit devient de la parole, et la parole est une matière, et elle est à égalité avec un mouvement, elle est à égalité. Enfin, il y a une espèce de principe égalitaire qui organise le plateau, et qui, à ce titre-là, est aussi très salvateur de ne plus hiérarchiser à partir d'une sorte de... Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'entend pas les textes, qu'on ne doit pas les entendre, mais qu'un mouvement n'est pas... Un geste n'est pas moins important, une musique n'est pas moins importante qu'un mot, qu'une phrase, qu'un... Voilà.
Et ça veut dire aussi qu'on reçoit tout en même temps, nous qui sommes spectatrices ou spectateurs, ou qu'on fait le tri, ou
qu'on fait son chemin dedans, qu'on fait son chemin. Quand je disais tout à l'heure, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fabrique quand on regarde, c'est aussi qu'on est renvoyé chacun à ce qu'il y a d'irréductible dans nos regards et dans le chemin qu'on peut faire.
Je m'arrête juste sur le petit sourire, Laurent Schalb, vous dites il appelle y compris les grands auteurs par leur prénom. C'est signe de quoi? Parce que à la fois dans ce qu'on entend du portrait que vous faites en creux aussi de François Tanguy, c'est quand même quelqu'un d'érudit, quelqu'un de pétri par ses lectures, donc avec un savoir, avec une traversée de la littérature, on n'aura peut-être pas le temps de le dire, mais avec aussi tout un parcours politique, une manière d'être aux prises avec le monde, ce qu'on appelle l'actualité, etc. Et en même temps quelqu'un qui se défend de quelque chose, voilà, parce que c'était une petite blague et que ça m'a fait sourire. Je veux pas que ce soit trop beau, je veux pas que ce soit France Culture. Alors, il se situe où? C'est-à-dire que appeler Dostoïevski par son prénom, mais ne pas vouloir être trop beau et trop France Culture, c'est quoi l'endroit?
Est-ce que ce serait une sorte de familiarité, mais extrêmement respectueuse? Est-ce que ce serait quelque chose qui dirait la mort de nous, être? Est-ce que ce serait quelque chose qui travaillerait la question de la mémoire, des traces en dehors de l'histoire, de ce qu'on appelle l'histoire, tout en la prenant en compte. Pourquoi je dis familiarité? C'est peut-être pour... ou amitié. C'est peut-être aussi pour défaire quelque chose qui serait comme une appropriation. Je sais pas comment dire. Comment François ne s'approprie pas tel ou tel fragment de Dostoïevski ou de Kafka ou de Walser. Mais comment quelque chose fait jeu, mais au sens le plus matériel, et travaille, non pas une vision, mais la question justement de la perception, de comment le regard, la perception en face va faire son propre travail.
Mais en la supposant, en la, comment on pourrait dire, on peut pas, avec tout ce que vous venez de dire jusqu'à maintenant, ça peut pas être en l'anticipant, ça peut pas être en se mettant à la place de ce qu'on va peut-être pouvoir voir.
Surtout pas. Qu'est-ce qui travaille? Alors, François, il n'installe pas. Il ne s'installe pas et il n'installe pas.
Mais il bricole.
Il bricole à vue. Tout est à vue. Une sorte de machinerie, mais aussi sa manière d'arrêter à temps. Et c'est ça la grâce. C'est d'arrêter avant que ça devienne... justement, trop beau, trop joli, d'arrêter avant, de faire bifurquer, quelqu'un rentre et traverse. Qu'est-ce que c'est que l'action? Comment quelque chose va, comme ça, se concentrer et créer vraiment ce qu'on pourrait appeler une action, mais très vite disparaître dans une sorte de précipice qui va détourner, mais au bon sens du terme, comme si vous regardez un tableau de Manet, mais quelqu'un à côté parle et Et votre oreille travaille sans le vouloir peut-être, mais en tout cas elle va se mettre au travail avec ce que vous êtes en train de regarder. Et vous ne vous en peut-être vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Donc, est-ce que je réponds un petit peu ?
Bah oui, bien sûr que vous répondez. On a parlé de l'espace et du lieu. On a fait une sorte de mélange entre un documentaire radiophonique tourné en 1995 et un autre, si je ne me trompe pas, tourné en 2005. Non, c'est l'inverse, 93 et 2005, à la Fonderie, au Mans.
Je vais faire.
Ah oui. Ah oui.
Mais alors ça fait quand on le sort comme ça, ça fait.
Il y a tout ce qui fait, ça permet d'entendre des choses.
Les oreilles. S'il m'arrive de me croire indépendant, de ne voir personne autour de moi, il apparaît bientôt que je dû me charger de ce poste par suite d'une constellation générale dont le sens ne m'est pas de tout de suite ou absolument pas accessible. Sans doute, cela n'exclut pas l'existence d'éclaireurs, d'une arrière-garde, de francs-tireurs et de toutes les coutumes et bizarreries de la stratégie. Mais il n'y a personne qui conduise la guerre pour son propre compte.
Tant que nous sommes vivants, nous ne sommes pas vaincus.
Humiliation de la vanité ? Oui, mais aussi encouragement nécessaire, conforme au vrai.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je ne sais pas, ce mouvement n'a jamais en réalité de préalable. En façon réelle, c'est ce pas à pas, mettre le pas et puis aller à la rencontre. Dans l'espace, dans les espaces, et les temps, les accents, et puis les corps. Mais il ne peut pas y avoir de préalable, parce que ce serait comme si on assignait à une trajectoire, une traversée, avant même d'être inquiété par son mouvement, de lui assigner un but. But, ça ne peut pas être le spectacle en tant que tel, c'est tenter de restituer ce mouvement du regard et de l'ouïe et des sens se faisant ensemble.
...1989... fric-frac du lieu-dit La Fonderie, accord tacite, maison du peuple, tout à la main, règle. Opus 1, éteindre la lumière afin d'accroître la surprise de ne pas l'avoir fait exprès. Opus 2, le faire exprès, selon qu'on y voit mieux, au cas où, il n'y s'y passe rien. Opus 3. Ajouter les facultés du fatras à trier et trier les sangs jusqu'au splendide ratage. Persévérément poursuivi est possiblement l'occasion de nettoyer la vue, l'ouïe, l'empreinte, l'odorat et la joie du fretin. Tournée internationale. Opus 4. Quates. Cirer ou pas cirer les godasses. Ventuellement costumes d'époque, dérivations sonores, remembrances d'espace, assemblages d'hiver et d'été fussent corps, vocables, danses d'hommage aux mémorants à venir. Opus 5. Alors là oui, joie modeste et noble, de lieu en lieu et d'âge en âge, agir, percuter de guerre, perclus de salissure, dégueulation, l'espèce à fond perdu si rien n'y sert à force. Des dépossessions d'être en stupeur de virus, car ça et là, va et vient, d'avoir forme de vie, dessous la croupe céleste perforée, d'illusions ruineuses. Ce pourtant, songe ou pas, paumes offertes et poings serrés, n'ont pas balancé le sens qui est tout de même le foin de l'âne. On en était là, approximativement, plus ou moins tassé, le 15 avril 2020. Prenons soin de tout un chacun. Vous pigez, sinon revenons lundi. C'est un book club sans méthode autour du travail de François Tanguy et du théâtre du Radeau. Je viens de lire un extrait d'une tentative d'autoportrait. Il répondait au théâtre des 13 vents le 15 avril 2020. C'est reproduit à la fin de l'ouvrage « La voix sur l'épaule dans les passés de François Tanguy ». Paru aux éditions théâtrales. Dans ce livre, on vous entend presque converser tous les deux, Olivier Neveu et Laurence Chable. On a entendu aussi à la fois des ambiances de la fonderie, ce lieu au Mans, mais aussi une archive de François Tanguy lui-même, c'était en 2011 sur l'antenne de France Culture, qui ne lui était pas étrangère. Et la lecture, ce qu'on entend là, c'est aussi... On a tellement parlé de mots ou de difficultés de placer des mots et tout, mais une langue, enfin, je sais pas, un vocabulaire, une manière de faire usage des mots. Et vous avez beaucoup parlé d'écoute au début, Laurence Chable, faire aussi avec ce vocabulaire et cette manière de parler pour bosser. Mmh. Et dans la conversation, Olivier Neveu ne cesse de vous dire « Mais comment vous faites ?» Alors, comment vous faites ?
Attention, François... parle effectivement de cette manière, mais il est là, il est sur le plateau avec nous. Et donc, les connivences, les interrogations, la réciprocité, a de nombreux outils, quand même. C'est très concret, en fait. Vraiment, quoi. C'est une chance extraordinaire que d'emblée travailler dans un costume, avec la lumière, avec le son, des entrées, des châssis, les camarades, les chaises, les tables. C'est inouï. Donc, c'est pas du décor, c'est un lieu. François, mais vraiment, insistait beaucoup. Quand il s'empêche de prononcer certains mots. C'est pas juste un caprice ou le plaisir d'interdire quelque chose. C'est parce que il y a comme le recul, le creux et une manière d'inviter d'autres mots qui vont être perçus différemment et nous mettre en acte différemment. Si on dit, s'il dit, ce n'est pas la scène, c'est un lieu. C'est quand même quelque chose d'incroyable.
Je pense à un épisode de travail dont vous dites très bien, Olivier Neveu, que ça oriente toute la conversation. Le travail oriente toute la conversation qu'il y a autour de la fonderie ou du théâtre du Radeau. Je pense que c'est pareil, c'est pas anodin de souligner ça à ce point. Vous racontez qu'il demande de retenir le grotesque. Et puis, il passe une nuit, et puis il revient et il précise en disant « Attendez, les gars, je ne voulais pas que vous empêcher de faire. C'était pas que vous demander de ne pas faire. Pourtant, vous soulignez à plusieurs reprises, Olivier Neveu, en pensant, quoi, aussi en nous donnant des outils pour penser, parce que c'est aussi votre travail, le « ne pas ». C'est ça, c'est, vous dites à la fois, en fait, réfléchir à l'aventure du Théâtre du Radeau, c'est réfléchir à tout ce qui est au travail, tout ce qui est l'action, la fabrication, le bricolage, la positivité de l'entrain, y compris dans l'engagement politique, de l'engagement, quoi. Et tout ce qui concerne le ne pas, ne pas, ne pas.
Oui, ce que disait Laurence tout à l'heure sur le fait qu'il fallait s'arrêter juste avant, ne pas s'étendre, ne pas s'étaler. Et on l'a entendu un peu dans le texte quand même. Il y a de la drôlerie chez Tanguy. Il y a des gags, il y a des blagues aussi qui sont des manières qui sont là aussi pour qu'on ne s'installe pas dans la gravité. Et il y a comme ça de manière... Et donc, de fait, ne pas y aller jusqu'au bout. Ne pas y aller jusqu'au bout parce que ça pourrait devenir à terme complaisant.
Et la gravité, c'est quoi alors, s'il y en a ? Elle tient à quoi ? Parce qu'en effet, on a prononcé ces grands noms que sont Kafka, Dostoïevski, Tchekhov. Est-ce que la gravité, c'est aussi la puissance des textes qui va chercher à impliquer au travail ?
Je ne pourrais pas évidemment parler à sa place, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est une conscience de la gravité historique, un souci... Walter Benjamin avait le souci des petits, du petit, un souci du petit, quelque chose qui était...
Petit le détail ou le peuple ?
Non, ce qui ne compte pas à l'échelle de l'histoire, les vaincus écrasés, il y a quelque chose de l'art d'une attention aux plus fragiles quelque chose qui est violenté par, par la guerre. Encore une fois, le radeau, Tanguy ont été des individus qui ont pris à bras le corps cette chose-là, comme ils ont pu avec les moyens. Donc je pense que la gravité, c'est la gravité historique, c'est aussi la gravité de notre propre finitude. Enfin, c'est des questions très lourdes. Et en même temps, parce que ne pas... la question, c'est de ne pas se complaire, s'étaler là-dedans et faire place. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, à ne pas hiérarchiser, faire place à toutes les émotions possibles, ne pas recréer un monde inégalitaire sur le plateau. Mmh. Donc la gravité est aussi importante que la joie, qui est aussi importante qu'un mouvement, qui est aussi importante qu'un mot. Et que des adresses comme ça.
Et des couleurs, et des aussi couleurs, des tissus, et des postiches.
Laurence disait.
Des perruques.
Laurence disait tout à l'heure, c'est très matériel. Oui, c'est très matériel. C'est-à-dire, il y a des postiches, il y a des perruques. Il y a un goût du théâtre aussi. Alors, encore une fois, en faisant quelque chose du théâtre qui n'est pas un usage conformiste de cette histoire-là, mais il y a quelque chose qui a à voir avec le plaisir de se costumer, quelque chose presque de l'enfance, et en même temps, le souci d'être à la hauteur de la gravité du monde et de la gravité du moment.
Vous parlez de l'idée de faire de la place, de créer de l'espace. On va écouter Marine, auditrice du Book Club. Elle a plusieurs fois été voir des créations du Théâtre du Radeau. Elle a aussi lu votre dialogue. Et il me semble qu'elle témoigne d'avoir ressenti d'avoir eu de la place pour elle.
Bonjour le Book Club, bonjour Laurence Chable et bonjour Olivier Neveu. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Théâtre du Radeau il y a 17 ans. J'ai chaque fois voulu recommencer l'expérience qu'était de voir un spectacle de François Tanguy. Je n'ai jamais été déçue. J'ai toujours retrouvé le même espace en moi auquel me permettait d'avoir accès justement ce travail, puisque j'imagine que le mot spectacle est peut-être pas le plus approprié, d'où ma question. Je sais qu'il y a une liste de mots proscrits. En tout cas, vous y avez fait référence, Laurence. Et j'aimerais savoir quels étaient ces mots et si le mot spectacle en faisait partie. Merci de votre réponse.
Et merci à vous, Marine, pour ce témoignage à la fois de spectatrice, de lectrice, et pour cette question qu'on adresse à Laurence Chable. Est-ce que le mot spectacle est proscrit? Et pourquoi? Et est-ce qu'il y en a d'autres?
Merci, Marine, pour tous ces mots. Proscrit, il ne faut quand même pas exagérer. Encore une fois, quand François proscrit ou interdit, ça peut aussi prendre l'allure d'une blague.
D'un jeu, ouais.
D'un jeu. Alors, c'est vrai que le mot spectacle, oui, effectivement. Pourquoi ? Pour préserver quelque chose du présent. Pour...
Mais que quoi, qu'empêcherait le mot spectacle?
Parce qu'il clôture quand même déjà dans sa géographie, dans sa frontalité, dans presque quelque chose de binaire. Et puis parce que il prend des dimensions. Enfin, il y a quelque chose qui peut-être s'uniformise. Dans le sens même premier d'uniforme, qui lui déplaît. Comment dire ça?
Ben, vous l'avez dit.
Ça n'est jamais terminé avec François, le travail. Même pendant les tournées, il continuait. Il pouvait enlever quelque chose, rajouter quelque chose, traverser le plateau pendant la représentation.
On se parle, Laurence Chable et Olivier Neveu, alors qu'est repris du 5 au 9 février au Théâtre de l'Aquarium à Vincennes. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire le spectacle, par autant. Donc par autant, pourquoi ça fait sens de continuer à jouer ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les uns, les unes, les autres, de jouer ce spectacle, de porter ce travail? Et je dois dire, du coup, sans lui ou sans lui vivant? Avec quoi de lui alors?
C'est vrai que la décision de continuer de jouer, item et par autant que les portes s'ouvriraient, a été prise de manière unanime. Et quelques jours après le départ de François, il y a beaucoup de raisons, je crois. Déjà que quelque chose ne s'interrompt pas de notre relation à lui, à travers l'œuvre. Ça s'appelle de l'amour, ça s'appelle rendre hommage. C'est... Comment dire ? Être dépositaire de quelque chose de très important qui ne nous appartient pas, mais dont nous sommes responsables. Nous en sommes responsables, encore une fois, bon, les raisons sont très nombreuses, mais nous ne cessons pas de constater comment toute une jeunesse découvre ce travail. Comment des personnes comme Marine tout à l'heure le portent au fil des années. Et ça, c'est quelque chose de très émouvant. Mais cette émotion est aussi une question politique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, vous parliez tout à l'heure avec Olivier des temps que l'on nous enlève de plus en plus. Qu'est-ce que c'est que la production aujourd'hui ? Et comment elle est attaquée ? Alors, si elle est attaquée, il y a quand même bien des raisons. Bon, on va pas parler de ça, mais en tout cas, enfin pas pour le moment.
Mais en même temps, on a fait que ça depuis 45 minutes. J'espère qu'on a fait que parler des raisons pour lesquelles, potentiellement, cette production, Laurent Chable, et la manière que vous avez de travailler, serait attaquée. Sinon, on a parlé de quoi d'autre ?
Bien sûr.
Ça m'intéresse deux choses dans ce que vous venez de dire, à la fois pour reprendre ce que dit Marine et les mots donc proscrits par jeu. Un autre mot qui est discuté entre vous deux, Olivier Neveu et Laurent Chable, c'est le mot « metteur en scène ».
Oui.
Vous vous dites « non, c'était pas ça ». Et Olivier Neveu, ça vous fait réagir et ça vous intéresse que ce soit pas un metteur en scène. Qu'est-ce que ça vous a raconté, la réponse de Laurent Chable qui dit « non, c'est pas un metteur en scène » ?
Que c'est plus large et plus ample que ça, que metteur en scène spécialise ou spécifie une fonction. Là où moi, ce que j'ai pas découvert, parce que j'en avais l'intuition, mais dans la conversation avec Laurence, c'est à quel point, au radeau, quelque chose s'est inventé d'une articulation singulière entre la vie et l'œuvre. Voilà. Et qui ce sont pas deux moments indépendants et complètement autonomes.
Pour tout le monde ou juste pour Tanguy ?
Non, pour tout le monde. Pour tous ceux et toutes celles qui en font partie. Et puis aussi pour nous, spectatrices et spectateurs, moi je suis tellement heureux que les spectacles continuent leur vie. En fait, on n'a pas tant l'occasion que ça d'assister comme cela à un poème sur scène. Voilà, c'est un poème. Donc, de fait, dès qu'on essaye de le décrire un peu trop, on le surspécialise, on crée des genres, on crée des catégories. Après, il faut dire que même si aujourd'hui il y a des attaques redoutables qui sont portées par des politiques et les politiques de tous côtés, puisque dans le département de l'Hérault, c'est le Parti socialiste qui a supprimé 100% du budget de la culture. Donc vraiment, il y a presque un consensus aujourd'hui, la classe politique, pour s'adresser ou pour agresser le monde artistique et pas que les travailleurs sociaux, les hôpitaux, les professeurs. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de discussion. Bon, à côté de ça, il y a encore des œuvres et il s'agirait pas de dire que il y a eu Tanguy et puis c'est fini. Et je trouve que d'aller voir le travail du radeau, c'est aussi reprendre de l'élan, parce que le radeau aussi traversait des périodes de précarité au commencement. C'est reprendre de l'élan pour essayer de creuser les possibilités de produire des œuvres uniques.
Y compris quand on fait pas de théâtre, parce que Marine et d'autres pourraient en témoigner, l'espace qu'on ressent en tant que spectateur, l'espace ou bien créé en soi, ou bien redécouvert, ou bien juste traversé, le temps d'une représentation, allez, moi je vais utiliser les mots basiques là, c'est aussi une force, c'est aussi quelque chose qui devient un potentiel d'action, éventuellement pour soi et dans l'espace politique. Vous dites, Olivier Neveu, vous mentionnez, et puis vous le faisiez aussi à l'instant, Laurent Chable, une jeunesse qui s'en réclamerait, qui redécouvrait, etc. Je pense par exemple à l'esthétique de la résistance de Sylvain Creusot, qui commence par un film de la bibliothèque de France, François Tanguy. Mmh. Et en même temps, toutes les nécros, désolée d'utiliser ce mot-là, mais de François Tanguy à sa mort, disaient « ce n'est pas le nom le plus connu, le plus brandi, mais c'est un nom important ». C'est intéressant aussi ces figures-là, Olivier Neveu.
Oui, oui, il y a un travail souterrain, clandestin, le travail de la taupe, disait Marx, qui travaille un peu à l'écart des grands modèles médiatiques.
Mais donc ça ne fait pas école, c'est pas ça qu'on peut dire.
Ça ne peut pas faire école. Ça ne peut pas faire école, si ce n'est que ça peut donner des élans. Et encore une fois, moi, je suis très, c'est très impressionnant de voir le nombre de jeunes artistes aujourd'hui qui se reconnaissent, non pas pour faire la même chose, mais qui se sentent libérés de quelque chose, justement, peut-être libérés d'une attente, et qui se mettent au travail dans cette familiarité à leur tour.
Sur cette question-là et sur, alors peut-être pas l'héritage ou une transmission active, mais sur ce que vous remarquez, Laurent Schaab, de, en effet, des jeunes metteuses en scène, metteurs en scène, comédiens, enfin bref, tous ces gens autour du théâtre qui se reconnaissent dans le travail du théâtre du Radeau, ça vous inspire quoi ?
C'est pas tant qu'ils se reconnaissent. C'est que... peut-être quelque chose se reconnaît d'interrogation commune, ou peut-être que le commun, tout d'un coup, arrive sans qu'on l'attende. Peut-être que, justement, c'est, je reprends exprès hein, le mot de reconnaissance pour le défaire,
bien
peut-être.
Sûr.
Qu'est-ce que c'est qu'un être singulier, dans sa singularité, comme hier soir, par exemple, dans cette salle magnifique au théâtre de l'Aquarium, qu'est-ce que c'est que ce nombre ? Et comment quelqu'un, au premier rang, une jeune femme, au moment des applaudissements, fond en larmes ? Qu'est-ce que ce rire qui parvient, qui nous parvient, de manière un peu étonnante ? Qu'est-ce que c'est que cet autre rire, dont on se rend compte que s'il se renouvelle, il y a comme un affût à ce que l'on entend dans les paroles Kafka, Kierkegaard, le général et le particulier, cette attention absolument incroyable, cette singularité qui nous parvient. Et en même temps, alors c'est peut-être ça qui émeut la jeunesse aujourd'hui, et peut-être plus particulièrement encore, pour toutes ces raisons, tout ce qu'on cherche à séparer, à exclure, à catégoriser. Donc ce commun-là, ce qui est finalement... cette simplicité qui parvient dans le travail de François. Et peut-être c'est tout ça. C'est-à-dire la reconnaissance, non pas d'un soi, dans sa capacité d'agir, même si, bien évidemment, on en a besoin, mais la reconnaissance d'un commun simple, qui rassemble, qui défait, qui s'évanouit et qui se retrouve, c'est tout ça. Que ce soit sur un plateau, que ce soit dans la rue, que ce soit à la fac, dans un café.
À la radio ?
Ou à l'usine.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, le jeudi, on prend des nouvelles du livre grâce à la rédac internationale de Radio France en dehors de nos frontières. On va en Espagne aujourd'hui avec vous, Marie-Hélène Ballestero. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Marie.
Le secteur de l'édition, elle vend en poupe en Espagne. 2024 reste dans les annales. Pour l'instant, c'est la meilleure année de l'histoire du livre avec près de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, sans compter les ventes de manuels scolaires et une croissance de 10% par rapport à 2023. Quelles sont les raisons d'une telle embellie, Marie-Hélène ?
Alors, il faut dire que l'embellie se prolonge depuis 2019. Le secteur de l'édition ayant connu une croissance cumulée de 35% ces 5 dernières années. Et cela est dû notamment, eh bien, au fait que les Espagnols lisent de plus en plus, et en particulier les jeunes, comme en témoignent les ventes de livres jeunesse qui ont augmenté de 16% l'année dernière et de 45% depuis 2019, avec le succès, entre autres, du romantasy, le genre littéraire qui mélange la romance et la fantasy. Mais en fait, tous les genres ont enregistré des hausses de ventes, notamment les livres de non-fiction et de fiction pour les adultes. En somme, on peut dire que l'industrie du livre en Espagne se porte bien actuellement et qu'elle reste la première industrie culturelle dans ce pays. Certains parlent même d'âge d'or, d'autant que, outre l'embellie du marché national, eh bien, l'Espagne est désormais le principal exportateur de livres de l'Union européenne. L'Amérique latine reste la principale zone d'exportation pour les éditeurs espagnols et en premier lieu l'Argentine et le Mexique.
En 2023, plus de 85 livres ont été publiés en Espagne par les grandes maisons d'édition, mais aussi les toutes petites, qui sont de plus en plus nombreuses, Marie-Hélène.
Oui, tout à fait. En fait, il y a deux très grands groupes d'édition dans ce pays, deux géants et quelques grands qui représentent plus de 60% du chiffre d'affaires total du secteur. Alors face à eux, une myriade de toutes petites maisons d'édition indépendantes qui tentent de tenir tête. Ce sont généralement de très petites structures, gérées en moyenne par 2-3 personnes, qui misent sur les petits tirages et très souvent sur la fabrication artisanale. C'est ce qu'on appelle les micro-éditeurs, grâce à leur passion pour la littérature et aux technologies plus accessibles, comme l'impression à la demande, qui ont fait réduire les coûts de production. Elles ont réussi à se frayer un chemin en Espagne en offrant une alternative aux grands éditeurs qui ont monopolisé le secteur pendant des décennies. Par ailleurs, de plus en plus de lecteurs font confiance à ces micro-éditeurs qui privilégient la qualité, l'innovation et la liberté éditoriale. En fait, grâce à leur structure moins coûteuse, ils peuvent être plus flexibles et expérimenter différents genres et formats, contrairement aux grandes maisons d'édition qui prennent moins de risques, car elles sont soumises à la pression des grands tirages.
Et alors, comment se présente l'avenir et quels sont les défis pour ces toutes petites maisons d'édition que vous évoquez ?
Alors, même si la prolifération de ces micro-éditeurs en Espagne a apporté, certes, un bol d'air frais à l'industrie du livre en Espagne, il ne faut pas oublier qu'ils restent fragiles car ils disposent de très peu de ressources et ont du mal à subsister dans un marché qui est toujours dominé par les multinationales. Alors, la concurrence est féroce et ils n'ont bien sûr pas accès au vaste réseau de distribution sur lequel s'appuient les grandes maisons d'édition. L'avenir s'annonce donc difficile, mais pour l'heure, les micro-éditeurs espagnols semble pouvoir compter sur le soutien des lecteurs avides de livres différents et authentiques.
C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Marie-Hélène Ballestero. Lecture sans frontières, c'est à réécouter sur franceculture.fr, par exemple via la page du Book Club. C'est exceptionnellement un Book Club qui se termine sans grand jeu des pages musicales, car nous avons pris du temps pour dire ce que nous avions besoin de dire autour de cette aventure du Théâtre du Radeau. Merci infiniment Laurence Chab, merci Olivier Neveu. Si on veut continuer de vous écouter converser en le lisant, on peut le faire en se procurant le livre La Voix sur l'épaule, dans les passés de François Tanguy. J'ai pas commenté ce mot-là, mais c'est très très beau ce passé, E-E-S, de François Tanguy. Et on peut aller voir Par autant du 5 au 9, donc c'est jusqu'au 9 février, dans le Festival Bruit, au Théâtre Musique et Théâtre de la Aquarium, c'est à Vincennes. Et puis on peut aussi se rendre au Théâtre Vidi de Lausanne.
Non, c'est fini.
Ils ont exposé les dessins, c'était la semaine dernière. Bon, c'est pas grave, on peut espérer qu'un jour des gens voudront réexposer ces dessins et même, ça se trouve, pourquoi pas les publier.
Ils sont publiés.
Ah bon, bah voilà.
En partie, okay. Parce qu'ils sont très nombreux.
Un grand merci à tous les deux.
Silhouette, cœur sauvage comme le printemps.
Au son aujourd'hui pour le Book Club, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Louise Hotte. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr, nous écrire via leboookclub@radiofrance.com et poursuivre la conversation via le compte Instagram de l'émission.